Bonjour et bienvenue dans cette 18e émission de Netscape. Nous sommes tout à fait prêts. 18e. Rafik n'était pas du 18e déjà. Ouais, j'ai compté en scrollant en fait sur l'émission Netscape sur la page d'arrêt sur image et j'ai constaté que c'était déjà la 18e. Netscape qui, pour rappel, est l'émission où on tente humblement, à notre petite échelle, de cartographier l'histoire d'Internet. Mm-hmm. Ce que je fais tous les mois en compagnie de mon acolyte Rafik Djoumi.
J'ai pas droit à un petit surnom aujourd'hui.
L'inénarrable. Ah, l'inénarrable merci. Et l'ineffable, okay. Rafik Djoumi.
Merci. Merci Julie. Donc, qu'est-ce que tu nous as préparé? Parce qu'en fait,
chaque Netscape sont l'autre surprise.
Alterne.
C'est vrai.
Entre des sujets que tu as proposés et des sujets que je propose.
Oui, on peut dire que c'est deux salles, deux ambiances. Libertarien un jour et aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de Machinima. Ouais. Machinima, qui, pour résumer grossièrement, est une pratique qui consiste à filmer dans un moteur de jeu ou dans un univers virtuel. Mais je pense que les images parlent plus que les mots. Donc je vous propose de regarder tout de suite la bande-annonce de Nice Island, que Antoine doit avoir en régie. Il me dit « Attends. » Donc je vais meubler en attendant. Nice Island est donc un film qui a été tourné intégralement sur les serveurs d'un jeu vidéo qui s'appelle DayZ. Et vous allez voir, en gros, c'est des interviews avec des personnes qui jouent au jeu depuis très très longtemps et qui ne se contentent pas de jouer au jeu comme on le fait habituellement. C'est qu'ils ils restent toujours dans leur personnage. Et donc, vont plutôt s'adonner au roleplay. Enfin, si vous nous regardez depuis un moment, vous avez peut-être déjà vu. Ah, bah voilà le trailer. Par contre, on n'a pas le son.
En fait.
Ah, c'est bon.
Don't shoot, please. What's your name?
An interview about what?
We are looking forward to meet you and talk about your way of surviving here.
Do you know how to navigate via the stars?
No.
Look at the big bear.
I see Cassiopeia straight ahead.
It's really beautiful here at night.
Do you think the groups here are trying to mimic the way the humans are behaving in the real world?
We live in Berlin. That's kind of nice to come into this game and see some fake wilderness and just sort of roam around.
Sometimes this world can feel less than the real one. That's why we're all here. It's what draws us back in. The whole thing is a social experiment.
I can see a couple of trees. It's raining.
It is minus 14 outside. I live in Canada.
That's cool.
Southern Finland is locked down from the rest of the country.
There's not a lot going on here except me and my computer.
It's a hot night. I'm at my homework desk.
Hopefully you cannot hear my child crying. He's asleep.
Give me your definition of the term in real life.
Donc voilà, ça c'était des images de Nice Island, qui est un documentaire qui a été diffusé en salle. Donc c'est dans une poignée de salles, c'était une sortie très confidentielle. Mais c'était quand même assez inédit pour moi, en tout cas, de pouvoir voir ce genre de machinima directement dans les salles obscures. Mmh. Où c'était assez curieux, c'était diffusé au forum des images. Et donc tu avais une réelle confrontation du public entre les personnes qui venaient parce qu'elles aimaient le jeu vidéo dans lequel le documentaire a été tourné, en l'occurrence DayZ, et aussi des personnes un peu plus amatrices de cinéma expérimental et qui posaient des questions un peu... presque naïve, mais je trouvais ça assez chouette. Oui. Genre, mais en fait, ce qu'on voit, tout ça, ça a été tourné dans un jeu et c'est des vrais gens. Mais oui, pour résumer, en gros, c'est trois réalisateurs français qui s'appellent Ekim Barbier, Guillaume Cossé et Quentin Lelgouache, j'espère ne pas écorcher son nom, qui ont passé 1000 heures en fait, sur les serveurs de DayZ, qui est donc un jeu de survie un peu basique où on doit survivre dans un monde post-apocalyptique infesté de zombies. Et on rencontrait des joueurs qui y sont depuis des milliers d'heures pour la plupart. Donc ça a été tourné pendant les deux périodes de confinement, donc un moment où les personnes avaient un rapport très particulier à leurs avatars virtuels. Et c'est vraiment un documentaire que je vous recommande si vous avez l'occasion de le voir. C'est très intéressant. Enfin,
mais ça porte sur quoi? Ça porte sur le type de personnalités qui sont sur ce jeu ou
ça.
Sur leurs personnages?
Les deux. Parce qu'au début, ce qui est intéressant, c'est qu'eux se présentent. Donc il y a trois réalisateurs qui se présentent comme des journalistes. Donc il y en a un qui est le caméraman. Donc en gros, toutes les images que vous voyez, en fait, c'est un des personnages qui l'a filmé. C'est la vision d'un même personnage quasiment tout du long. Ce qui a nécessité pas mal de détails techniques, par exemple. Parce que quand on se balade dans ce jeu, Il fait froid en permanence, donc il y a toujours de la buée qui se forme autour de la bouche des personnages. Donc ce qui signifie que les deux autres persos qui l'accompagnaient devaient tout le temps faire un feu ou éviter qu'il se fasse massacrer par des zombies à la première occasion venue. Donc c'est marrant parce que ça demande des techniques un peu particulières, mais pour le reste, ils ont vraiment une approche de documentariste assez typique, quoi. Et ça porte, au début, la plupart des joueurs qu'ils vont rencontrer vont parler exclusivement comme s'ils étaient dans le jeu. Ils ne vont jamais sortir de leur personnage. Et à mesure qu'ils apprennent à les connaître, parce qu'ils ont quand même passé 1000 heures là-dedans, ils vont commencer à raconter un petit peu leur vraie vie. Donc, tu as un des gars qu'on voit dans le trailer, le révérend Jones, alors celui qui est un peu habillé en cow-boy, qui finit par se confier un petit peu en expliquant « Moi, dans la vraie vie, je m'appelle Franck, je suis kinésithérapeute, je suis assez timide. Et ce serait un peu embarrassant pour moi de dire à mes patients que le soir, en fait, je deviens le révérend Jones et que je sacrifie de la chair humaine en l'honneur du dieu Dagoth. » Enfin, c'est le genre de trucs qu'ils font, quoi. Et c'est, ce qui est intéressant, c'est qu'en gros, on a tous les éléments du jeu qui ont été enlevés. Le jeu n'est même pas cité dans le documentaire.
Ah oui.
Et tous les éléments du head-up display, donc ce qu'on voit habituellement quand on joue à un jeu vidéo, à savoir la barre de santé, le nombre de balles qu'on porte sur soi, ont été enlevés, donc du coup, pour vraiment laisser place à l'image. Et ils ont passé, des heures aussi, ne serait-ce qu'à repérer les lieux qui seraient intéressants à filmer. À essayer de voir aussi les moments où il se passait quelque chose. Par exemple, il y a un moment où ils ont motivé les joueurs qui sont avec eux à explorer les confins de la carte, donc où ils vont se mettre à exploiter un petit peu des bugs du jeu. Donc ça donne un film assez poétique où on a des personnes qui vont nous expliquer quel est un peu leur rapport à la nature, qui vont dire moi d'habitude j'ai juste 10 mètres à sortir, 10 mètres plus loin de chez moi pour voir la nature. Là, j'en suis privé en période de confinement. Et explique comment, en fait, pour eux, revenir sur Daisy, c'est un peu comme aller dans un bar du coin, quoi. Enfin, c'est dans le sens où il y a un des joueurs qui explique que ça fait 12 000 heures qu'il y joue, mais il a toujours l'impression de voir une nouvelle pièce de théâtre, en fait, parce que tout le monde improvise, tout le monde reste dans son personnage. Il y a comme un... Et c'est quelque chose qu'on retrouve, et on en parlera plus tard, aussi dans le GTA RP. Mais avant de parler de ces pratiques récentes, en fait, on aurait bien aimé revenir sur...
comment c'est né tout ça.
Qu'est-ce qu'est le machinima et comment c'est né? Parce que, mine de rien, ça fait un moment que ça existe.
Un quart de siècle maintenant.
Quart de siècle maintenant, même si le terme machinima au sens strict, il a fallu attendre 99 pour que... Un quart de siècle, mais quelques années avant, autour de la sortie de Doom et de Quake, donc 93-96, il y avait déjà des personnes qui filmaient des extraits de leur partie et les détournaient pour en raconter une autre histoire. Je recommande, une fois n'est pas coutume, un article sur jeuxvideo.com qui est très intéressant sur l'histoire des machinima. Donc machinima, pour expliciter un peu, c'est une contraction entre le mot « machine » et le mot cinéma, donc ça dit plus ou moins bien son nom. Mais il y a quand même une grosse distinction à faire, parce qu'il y a souvent une confusion entre machinima et image de synthèse, et c'est pas
rien
du
à
tout
voir.
La même chose.
C'est vraiment utiliser le moteur d'un jeu vidéo pour créer sa fiction, en fait. Quoi.
Oui, voilà, c'est ça. Ouais,
tout à fait.
Raconter une histoire tout autre que celle que développeurs voulaient raconter à l'origine.
Sur Doom, en fait, c'était... En gros, Doom permettait d'enregistrer sa partie, mais ça restait sur... vu que c'est un FPS, donc on restait sur un plan subjectif du joueur. Alors que le principe du machinima tel qu'il va se développer ensuite, il faudra attendre les vrais jeux multijoueurs pour que un des joueurs joue la caméra, en fait, soit la caméra, et filme les autres joueurs en action.
Permettre un peu des visions alternées, une pratique un peu plus cinématographique. Mais avant ça, avant même Doom et Quake, donc en 90, on a... Alors c'est intéressant de constater que Walt Disney a eu un rôle assez important dans la naissance du machinima, même s'il n'était pas nommé comme tel à l'époque. Et en 90, on a le jeu Disney Animation Studio qui sort sur Amiga, donc on doit avoir des images, Antoine. Mais en gros, c'est un jeu qui te permettait de faire des animations Disney. Évidemment qu'avec des personnages Disney à l'époque, et d'enregistrer pour faire ton petit film, quoi. Alors là, je crois que c'est une interview du développeur, donc je pense qu'il va faire...
C'était Léonard Maltin, un critique qu'on a vu à l'image.
Mais voilà, t'as vraiment ce principe où tu peux choisir ton personnage et l'animer pour en faire ton propre film. Et 2 ans plus tard, c'est Disney aussi qui édite le jeu Stunt Island, qui est alors pour le coup un simulateur de vol, mais qui permettait d'enregistrer ses propres cascades. Donc toi, tu pouvais, en tant que joueur, choisir l'endroit où tu plaçais tes caméras, choisir tes accessoires et souvent commettre des crashs absolument ignobles, parce que c'est ça qui rendait bien à l'écran, quoi. Bon... On est en 92 à l'époque, donc c'est pas des plus réalistes, mais c'est quand même assez dingue ce que ça permettait de faire à l'époque, quoi. Mais donc pour là, pour le coup, on reste sur des jeux qui avaient vraiment l'intention de placer le joueur dans le rôle d'un cinéaste en quelque sorte. Mmh. Pour qu'on commence à voir des détournements, bah c'est Doom, je pense. Dont... Je ne sais pas si j'ai des images de Doom, mais Doom en 93, donc pour rappel, un FPS très influent dans l'histoire des first person
Il y en a eu deux qui ont vraiment lancé le concept. C'était Wolfenstein d'abord.
Wolfenstein 3D, bien sûr.
Aussitôt, le carton de Doom sur PC qui a vraiment, vraiment lancé le truc. Quoi.
Mais bah, Doom est particulièrement important dans l'histoire du machinima parce que le jeu permettait en fait, d'enregistrer des extraits de ses propres parties. Alors, pour le coup, à l'époque, il n'y avait pas du tout d'objectif artistique du côté des joueurs. L'idée, c'était vraiment de montrer soit un extrait de partie où on a particulièrement brillé, ou juste de montrer un secret extrêmement bien caché du jeu pour le partager avec le reste de la communauté. Mais c'est seulement 3 ans plus tard, donc quand le jeu Quake, pareil, un FPS très important dans l'histoire du jeu vidéo, c'est vraiment quand Quake apparaît qu'on a un premier machinima, en tout cas le tout premier machinima jamais recensé. S'appelle Diary of a Camper. Alors, on doit avoir des images. C'est pas un très bon film. Les dialogues sont un peu flingués, mais l'intention est là, quoi. On est sur un court-métrage d'une minute trente qui est donc tourné exclusivement sur Quake et qui raconte une petite histoire qui n'a rien à voir avec celle du jeu original. C'est l'histoire des Rangers, plusieurs personnages qui vont explorer une map et qui tombent sur un campeur. Donc un campeur, c'est le terme dérogatoire qu'on emploie pour désigner les personnes qui se cachent dans un coin en attendant que le combat vienne à eux, enfin les pleutres en gros, quoi.
Les snipers, quoi.
Ouais, voilà. Ouais. Et donc en gros, ils tombent sur un campeur qui finit par par leur tirer dessus et découvrent que ce campeur n'est autre que John Romero, l'un des développeurs du jeu. Mais alors ce Diary of a Camper, malgré le fait que les images soient pas très impressionnantes, ça marque un tournant. C'est vraiment pour le coup un jeu où on n'a pas exclusivement une caméra FPS, c'est pas toujours la première personne, donc il y a eu un partage un petit peu des moments filmés, quoi.
Oui, bah, en fait, on parle de machinima à partir du moment où il y a une tentative créative, on va dire, en l'occurrence cinématographique.
Ouais, c'est-à-dire intention artistique.
Il ne s'agit pas juste d'enregistrer sa partie, comme c'était le cas sur Doom, pour montrer à ses copains les exploits qu'on a fait, mais vraiment de mettre en scène. Et la question centrale, c'est la question de la prise de vue, donc de la caméra, et du coup, de ce qui est permis de faire. Alors là, avec Quake, on l'a vu dans l'extrait qui est passé, les mouvements de caméra sont un peu brutaux, on ne sait pas trop comment se positionner, c'est difficile de faire, des contre-plongées, ou même du montage. Du coup, voilà, on a un joueur qui fait semblant d'être le caméraman de l'opération. Mais tout ça va se développer assez rapidement. Mais déjà, sur Quake, il y a beaucoup
de choses. Sur Quake, il y a énormément de choses à dire, parce que pour le coup, les personnes qui ont inventé le terme de machinima, donc Hugh Hancock et Anthony Bailey, surtout Anthony Bailey, a fait beaucoup de ce qu'on appelle des Quake movies, c'est-à-dire des petits films réalisés sur Quake. Alors, à l'origine, c'était beaucoup de films c'était pas vraiment des films, c'était plutôt des vidéos de speedrun. D'ailleurs, le speedrun, je pense qu'un jour on fera un épisode dédié là-dessus, mais en gros, cette pratique qui consiste à faire un jeu le plus rapidement possible. C'est simple en fait, filmer.
Toi, tu m'as speedrunné juste avant l'émission, le Rubik's Cube.
Oui, hors antenne évidemment, c'était très impressionnant. En 2 secondes 30, le record mondial a été battu. Malheureusement, Antoine n'avait pas allumé la caméra à ce moment-là. Ça n'a pas du tout pris une longue minute. Mais du coup, ouais, les Quake Movies, à l'origine, c'était plutôt des speedruns.
Ouais.
Donc typiquement, le jeu, quelqu'un qui termine le jeu en l'espace de quelques minutes, alors qu'il faut pour un joueur lambda plutôt plusieurs heures. Quoi. Ouais. L'idée de filmer ces speedruns est logique parce que c'est de pouvoir prouver en fait, qu'il n'y a pas eu de triche à aucun moment. Donc c'est vraiment un film continu, quoi, mais sans la moindre intention artistique. Mais Anthony Bailey a commencé là-dessus et après il a commencé à faire des petits films justement avec des variations de points de vue, des changements. Alors on ne peut pas dire que narrativement c'était extrêmement ambitieux non plus, mais on a l'exemple de Quake Done Quick with a Vengeance. Donc, alors là pareil, c'est un speedrun, mais qui a un certain sens de la dramaturgie, on va dire, quoi. Et Anthony Bailey et Hugh Hancock vont être assez importants dans l'histoire du machinima, particulièrement Hugh Hancock qui va fonder un portail nommé machinima.com qui était en ligne jusqu'à 2019, je crois. Hein. Si vous y allez aujourd'hui, vous allez tomber sur des films Warner Bros, mais allez sur Internet Archive, vous regardez, et à l'époque, c'était vraiment un portail où tout le monde pouvait poser ses films. Ouais.
Oui, comme on était bien avant les YouTube et les plateformes qui permettent justement de partager de la vidéo, mais on avait avait sur les sites, les Something Awful, etc. On avait pas mal de machinima qui apparaissaient. Et effectivement, ils étaient tous regroupés sur cette plateforme. Moi, j'en ai vu plein sur machinima.com, en fait.
Ouais. Mais c'est marrant. Tu as découvert comment les premiers machinima que tu as vus?
Alors, en fait, moi, j'ai commencé par découvrir le mode Director, parce que j'étais sur console, sur PlayStation, à la sortie du jeu Driver.
Ah oui,
tu te souviens de ce jeu?
Oui, j'adorais Driver.
Et donc c'est un jeu de course de bagnole qui était inspiré du film de Walter Hill, Driver, donc qui était sorti en 79. Et tu sortais jamais de ta voiture, quoi. Et en fait, il y avait, tu pouvais enregistrer ta partie.
C'est beaucoup moins beau que dans mes souvenirs, par contre. Mais ouais. C'est fou ce que fait la nostalgie.
Et là, ce qu'on voit, en fait, c'est un montage. Tu avais plusieurs choix. Là, tu pouvais choisir la vue subjective, une caméra fixe, etc. Et faire, en gros, ta poursuite, ta propre poursuite en bagnole. Je l'avoue, j'ai passé quelques nuits, moi aussi, de mon côté, à faire comme ce monsieur, à essayer d'obtenir un truc cinématographique.
Et c'était dur, justement.
C'était assez compliqué, ouais. Parce qu'il fallait tout le temps vérifier que tu avais bien fait. Bon. Par contre, ce qui était intéressant, tu pouvais pas avoir un point de montage satisfaisant parce que, en fait, dans le montage cinématographique, on triche un peu avec la chronologie des plans.
Ouais.
Quand tu as deux plans qui s'enchaînent, en fait, tu superposes des images pour que vraiment le mouvement soit fluide. Et là, en fait, quand tu passais d'un plan à l'autre, c'était forcément brutal.
Ah oui, ok.
Tu ne pouvais pas faire un montage aussi smooth qu'on le fait au cinéma, quoi. Et donc, bah, du coup, j'ai cherché si des gens avaient partagé leur propre montage sur Driver pour voir si les miens valaient quelque chose par rapport à ceux d'autres. Et c'est comme ça que je suis tombé sur des machinima.
D'accord.
Et ça devait être, j'imagine, des machinima Quake, même si assez vite, on a commencé à avoir des machinima Halo, parce que c'était... c'est plus tard, c'est 2003, les Halo, ouais.
Ouais. Enfin, en tout cas, 2003 pour Red versus Blue, dont tu m'as dit qu'il fallait qu'on parle, parce que moi, j'avoue, je ne connaissais pas du tout...
Alors oui, Red versus Blue, bah donc voilà, le jeu Halo sort sur Xbox, énorme carton, jeu multijoueur donc, et qui dit multijoueur dit qu'un des joueurs peut servir de caméra pour les autres. Donc très vite l'idée s'est posée de faire les cons. Et donc, alors j'ai plus les noms du tout des créateurs, désolé, mais Red versus Blue, en gros, c'est la chronique de la guerre entre deux factions d'Halo, bah, tout simplement les rouges et les bleus. Et c'était des trucs, voilà, des petits sketchs humoristiques de 5 minutes. Qui faisait grand cas des explosions et des mecs qui partent dans tous les sens. Enfin,
non,
voilà.
mais d'ailleurs, quand j'y pense, quand je suis allée sur Internet Archive pour regarder le site machinima.com, et je crois que la bannière que j'ai eue, c'était un truc, un format par les hommes, pensé pour les hommes, un truc comme ça. Il y avait un côté très...
ambiance à l'eau, quoi.
Ouais.
Et donc, ce qui est intéressant avec Red versus Blue, c'est que c'était vraiment au départ pour la déconne.
Et mais c'est devenu une série tellement marché, cher, quoi, voilà. Ouais.
Ça a tellement marché qu'ils se sont retrouvés... au départ, ils étaient partis pour faire 6 ou 7 épisodes, quoi, puisque c'était vraiment des petits sketchs accumulés. Et puis finalement, il y a eu un récit qui s'est développé, et puis une saison, puis une deuxième, puis donc, bref. Et très vite, et ça, pour moi, c'était un événement, une bascule, il y a eu un DVD qui a été édité de la première saison. Et donc, on était à une époque où, en tant que cinéphile, il y avait des milliers de films qui n'étaient pas sortis en DVD, un machinima qui était déjà sorti en... Bon, bref. Et donc, pour moi, c'était un moment de bascule entre cinéma et jeux vidéo, où tout d'un coup, parce que la technologie du jeu vidéo, du video game, avait atteint une certaine maturité, on pouvait faire semblant de faire du cinéma au point de mériter une sortie... sur un support, entre guillemets, sérieux. Quoi.
Oui, c'est ça, un support physique. Quoi.
Aujourd'hui, d'ailleurs, je crois que l'intégrale de Red versus Blue est carrément disponible en Blu-ray.
Ouais. Mais alors, c'est marrant, parce que sur les machines images, j'ai toujours l'impression qu'il y a soit le truc... comme on a pu voir un peu plus délire de potes, improvisation, etc., parfois un peu potache.
Ouais.
Et en même temps, de l'autre côté, tu as le truc vraiment complètement art et essai, presque absurde.
Alors, il y a les deux. Mais, mais c'est vrai que le premier réflexe, c'est de le faire sous le ton de la blague. Alors, du coup, ça me rappelle un truc. Et j'espère ne pas dire de bêtises parce que ma mémoire est un peu floue, mais au tout début des années 2000, on avait un chat réservé aux lecteurs du magazine Mad Movies, sur lequel traînait Monsieur Poulpe, qui, bien avant que sa carrière soit lancée, et c'est lui, je crois, qui m'avait parlé de la possibilité de faire une série sur World of Warcraft.
D'accord. Oui, bah là où pour le coup, pareil, dans un MMORPG.
Énorme MMORPG, ouais. Où finalement il était facile de regrouper les gens et de les diriger à distance, en fait. Parce que tout le principe, c'était d'enregistrer les joueurs en action, de leur dire en gros ce qu'ils doivent faire.
Oui.
Et toi, tu fais la caméra, quoi. Et t'enregistres, et après, bah, t'as ton film. Et donc, bah, il était déjà en train de penser à faire des petits sketchs humoristiques en utilisant
les persos,
voilà.
Non, et puis au contraire de jeux comme Quake, tu avais une certaine variété dans les environnements, un gigantisme dans les environnements arpentés, qui évitait d'avoir ce côté hyper répétitif, parce que quand je regardais les Quake Movies, il y en a quand même un qui est décrit comme le Citizen Kane des Quake Movies, il s'appelle Opération Bayshield. J'ai toujours du mal à saisir l'intérêt, mais bon... Ah bah là, d'ailleurs, on voit un extrait de l'épisode Make Love, Not Warcraft de South Park.
Oui.
Justement, qui est un des premiers exemples de machinima vraiment expressément tourné pour une série...
Pour une série télévisée.
Alors, c'est pas le seul, mais je pense que c'est l'un des plus réussis. Bon, déjà, c'était hyper drôle. Pardon, t'avais peut-être pas fini sur...
Non, voilà, c'est juste que Red versus Blue a squeezé, en gros, l'idée de Poulpe, quoi, de faire une série, une série
humoristique
sur un jeu vidéo.
Ouais. Donc,
mais enfin, il avait quand même eu l'intuition et je trouvais que c'était brillant d'avoir pensé à ça, quoi. Du coup, oui, dès l'époque, je me disais qu'on allait commencer, vu qu'on savait bien sûr que les graphismes du videogame allaient se développer à vitesse grand V, on savait qu'on arriverait très vite à un point où on pourrait vraiment faire des films de cette façon-là, c'est-à-dire en gros avec rien de plus qu'un PC et un bon moteur de jeu.
Oui, c'est ça. Et puis un peu d'imagination et un certain sens de la mise en scène.
Quoi. Après, le reste, c'est le talent. Mais techniquement, on a vu les choses progresser très vite. Quoi.
Ouais, bah oui, c'est ça, parce que faut se dire qu'entre Doom et World of Warcraft, ouais, il y a 10 ans qui sont passés, et la différence de ce qu'on peut faire en termes de film est assez dingue, quoi. Il y a plein de cas notables de machinima célèbres, mais alors un que j'aime bien citer, mais parce que c'est rare aussi que des cinéastes traditionnels, en tout cas, s'y essayent, c'est Ouvroir the Movie par Chris Marker, donc alors qui est sorti, on doit avoir des images aussi. J'ai peur de dire une bêtise, je sais plus si c'est 2010, ouais, ça doit être 2010. Donc en fait, en gros, c'est un film documentaire où on arrive sur un archipel qui a été conçu par Chris Marker et un de ses amis informaticiens, donc où en fait on est accueilli par un avatar de chat, le chat de Chris Marker en l'occurrence, qui est surnommé Guillaume en Égypte. Et là, bon, pour le coup, je te parlais de vibe un peu art et essai, et bon bah oui, là on est complètement là-dedans. Et ça a d'ailleurs été une des grosses influences des réalisateurs de Nights Island, ce film-là. Mais à ma connaissance, c'est assez rare en fait que des cinéastes traditionnels s'essayent au machinima en tant qu'objet à part entière.
Déjà, il faut préciser que Chris Parker n'en était pas à son coup d'essai puisqu'il avait fait son film Level 5 dans les années 90 qui mettait en scène un développeur de jeux vidéo et donc du coup il y avait la recréation d'un jeu de stratégie en temps réel dans son film.
Ouais.
Donc il incluait déjà ce nouveau type d'image dans son cinéma. Et il y a un autre cinéaste, alors c'est pas aussi prestigieux peut-être que Chris Marker, mais quand même, qui est John Hillcoat, le réalisateur de La Route. Qui avait fait un western qui s'appelait The Proposition, qui avait eu son petit succès, et du coup, Rockstar lui avait confié la réalisation d'un film promotionnel pour Red Dead Redemption. Je crois que ça doit se trouver, Antoine, sur YouTube, ça s'appelle, je crois, Red Dead Redemption, The Man from Blackwater. Dans mon souvenir. Et donc, c'est un moyen métrage de 30 minutes, entièrement réalisé dans le moteur du jeu Red Dead Redemption, par un vrai réalisateur de western. Et ça avait de la gueule. D'ailleurs, vraiment, il y avait... alors, il avait évidemment...
En plus, Red Dead permettait quand même...
Déjà, Red Dead,
déjà, le jeu était
techniquement,
super beau.
Voilà, c'est super
choses.
Beau. Ben, c'est bon, il l'a trouvé. Red Dead était particulièrement beau pour l'époque. Mais il y avait un côté contemplatif dans Red Dead Redemption qui collait bien avec le cinéma de John Hillcoat, quoi.
Ouais.
Et on a, ben voilà, on a cette voix off avec une musique originale, etc. Bon, bref. Et finalement, c'était pas si éloigné de ce que John Hillcoat avait fait avec The Proposition. On commençait à s'approcher du même truc. Donc c'est, voilà. Culturellement, je le dis en tant que cinéphile, ça avait du, enfin pour moi ça avait du sens quoi que des cinéastes se décident enfin à utiliser ces outils-là, parce que quelque part on peut presque considérer le machinima comme l'école de Cinoche des très pauvres quoi. C'est celui qui a vraiment rien du tout.
Tu peux faire des trucs à moindre frais quoi.
T'as même pas de quoi t'offrir une caméra.
Ouais.
Mais tu peux finalement avoir accès à des univers entiers si tant est que tu aies un minimum de talent de narrateur quoi. Mm.
Et je vois Raclette AOP qui nous demande si on a parlé de Hôtel de Benjamin Huet. Non, alors il n'était pas dans ma liste, mais c'est vrai que c'est vertigineux hein, quand tu regardes le nombre de... Mais tu peux nous en parler, n'hésite pas. Non, j'ai noté The French Democracy. Alors c'est étonnant parce que c'est réalisé par un Français, Alex Chan. C'est sorti en 2005 et alors il a utilisé le jeu vidéo The Movies, qui est un jeu de gestion où tu gères ton propre studio de cinéma, pour faire un court-métrage qui vise à montrer les événements qui ont précédé les émeutes de 2005 et qui, j'ai l'impression, a eu un plus gros retentissement outre-Atlantique qu'en France. Enfin, on doit avoir quelques images, mais c'est The Movies, donc c'est pas très beau. C'est pas aussi beau que Red Dead, mais ça fait le taf, quoi. mais après, tu parlais du machinima en tant qu'outil promotionnel, et ça, je pense que c'est une notion assez importante, parce que le machinima a été employé par plusieurs éditeurs de jeux vidéo justement pour faire la promotion de leurs jeux. Que ce soit, quand tu regardes la plupart des bandes annonces de jeux, de trailers de jeux aujourd'hui. Certes, pas tous.
Celles qui sont faites à partir du moteur, du moins.
Oui, voilà, c'est ça. Celles où tu n'as pas un enchaînement de cinématiques, comme ça peut être le cas, par exemple, avec GTA 6. Ah, désolé, avec mes feuilles et mon micro, décidément. Chaque mois, c'est la même chose. Mais souvent, en fait, il y a des personnes, en tout cas, qui sont chargées expressément de tourner des images pour montrer un petit peu les prouesses techniques du moteur de jeu, etc. Et ils vont devoir, en fait, positionner leur caméra pour donner envie aux joueurs, quoi. Et en quelque sorte, beaucoup de bandes annonces de jeux sont des mini-machinima, contrôlés de A à Z par les éditeurs.
Protoraman demande sur le chat, est-ce qu'il y a des réalisateurs qui ont percé aujourd'hui en ayant commencé par des machinima? Alors, je ne veux pas dire de bêtises et je n'ai plus son nom, mais il y a un réalisateur asiatique-américain qui fait des trucs assez chouettes, avec beaucoup d'effets spéciaux. J'ai plus son nom. Et il me semble qu'il avait démarré avec des machinima.
D'accord.
En tout cas, c'est surtout pratique, je pense, pour apprendre le montage.
Ouais.
Parce que c'est vraiment, je dirais, le nerf de la guerre, quoi. C'est-à-dire que n'importe qui, finalement, peut demander à ses potes d'exploser une bagnole, de sauter, etc. La prise de vue, c'est pas si compliqué à faire. Mm. Mais ensuite...
Mais choper le bon money shot, ça peut être compliqué. Hein. Pour Canard PC, on a un journaliste qui avait discuté avec des personnes qui devaient faire justement les bandes annonces de jeux et qui racontaient à quel point ça pouvait être galère, en fait, justement, d'avoir le plan parfait, mais en même temps pour que ce soit suffisamment lisible pour le spectateur. Enfin, il y a eu des beaux progrès faits depuis. Et certains éditeurs ont même fait des machinima dédiées. Par exemple, Telltale, pour promouvoir la série de jeux Sam & Max en faisant patienter les joueurs entre la sortie d'un épisode, ont sorti, alors ça, peut-être qu'on les a, Antoine, je sais pas si tu tapes Sam & Max machinima. En gros, entre chaque épisode, ils sortaient trois petits machinima pour donner vraiment un petit quelque chose aux joueurs, quoi, quelque chose à se mettre sous la dent, quoi. Mais alors, moi, ce qui m'a vraiment fait découvrir le machinima vraiment à fond, c'est l'époque MTV. L'époque MTV et puis plus tard Game One, mais parce qu'il y a eu cette grande mode. Alors, ça a commencé avec le clip du groupe Zero Seven pour le morceau In the Waiting Line, donc c'est un machinima. Donc, ce qui était le tout premier clip, enfin, en tout cas réalisé à partir des images d'un jeu vidéo. Et ça a tellement bien marché, donc MTV l'a diffusé. C'est un format qui a ultra bien marché à l'époque. Et donc MTV, bon, plus précisément MTV 2, bah, là on a des images du clip. C'est vraiment, ça fleure tellement les années 2000 et les gros polygones, mais j'aime beaucoup. On fait des petits bons, on se permet des petits bons narratifs entre l'hyper-réaliste de Red Dead et ce robot tout plein de polygones. Mais oui, ça c'est le premier clip en machinima. Et à la suite de ça, et donc du succès de ce format, sur MTV2 va apparaître un nouveau concept qui s'appelle Video Mods. Et alors en gros, c'est, l'idée c'est de créer des clips alternatifs pour des morceaux déjà existants.
Ouais.
J'en ai sélectionné quelques-uns, mais qui vont forcément de pair avec mes goûts musicaux de l'époque. On a par exemple All the Small Things de Blink-182 qui a été tourné sur le jeu SpongeBob SquarePants Live Camera Pants. Et Get Low de Lil Jon qui a été tourné sur l'adaptation jeu vidéo de Fight Club, car oui, il y a une adaptation jeu vidéo de Fight Club.
Bah oui, bien sûr, et je savais, et je pense.
Ah bah là, c'est le Blink-182.
Mais Get Low, c'était.
Où ils reproduisent donc des gestes que font les chanteurs.
Ah oui, d'accord.
Malheureusement, on n'a pas le son, mais je l'ai dans ma tête.
Mais il n'y avait pas de clip officiel de Get Low, parce que...
Il y avait un clip officiel de Get Low. Mais en gros, tout comme il y avait un clip officiel de All the Small Things, et justement, là, tu vois Bob l'éponge et reproduire la danse que doit faire Tom Malonge dans... Enfin, Tom Delonge dans le clip original, quoi. Et bah oui, pour Get Low, bah oui, c'est pareil. Hein. C'était vraiment l'idée, c'était de proposer des clips alternatifs à des clips déjà existants, quoi.
Mais ouais. Et d'ailleurs, Get Low, c'est marrant, parce que je réalise que j'ai... C'est à,
ah, voilà,
c'est à travers le jeu vidéo que j'ai découvert cette chanson, parce que c'était dans... Elle était utilisée dans Need for Speed, je crois. Dès que t'emmenais ta bagnole au garage, t'avais Get Low. Et c'est comme ça que j'avais découvert ce titre.
Il y a beaucoup de gens qui essayent de trouver le
oui,
réalisateur. Est-ce
oui.
que c'est l'un d'eux, par hasard?
Et non, je ne crois pas que ce soit
ni
l'un
Zach
d'eux.
Ni Zach quelque chose, ouais. Ni Monty, ni John... On finira par
mais
le
bon,
trouver.
Mais bon, désolé, mais on retrouvera.
À la question Internet étant ce qu'il est, est-ce qu'il y a eu des machinima érotiques? Alors, c'est la règle 34.
Oui, c'est
évidemment,
ça.
Évidemment qu'il y a eu des machinima érotiques. Ouais, on en avait parlé très brièvement dans l'épisode qu'on avait fait sur le porno.
Mm-hmm.
Moi, je crois que j'avais fait part de ma sidération quand j'étais tombée sur des machinima érotiques de The Last of Us Part 1. Ouais. Je ne peux pas oublier ce que j'ai vu
ce jour-là. Il y avait le fameux coffee mode de
GTA.
De GTA San Andreas.
Oui,
aussi,
tu peux rappeler
voilà.
un petit peu l'histoire.
Oui, bah, c'était en fait, il y avait un mode caché de GTA San Andreas. Qui, alors, en fait, dans GTA San Andreas, on pouvait faire la cour à des demoiselles quoi, et avoir des dates. Mais,
tu le dis de manière si chaste.
N'est-ce pas mais en fait, on
va se faire striker avec
voilà,
ça, Antoine.
Le date s'arrêtait lorsqu'on rentrait dans la maison avec elle, et en fait, on restait à l'extérieur de la maison. On ne voyait pas ce qui se passait à l'intérieur de la maison. Mais il existait sur PC une sorte de cheat, un code, qui permettait de voir l'action à l'intérieur. Et lorsque ça avait fuité, qu'il y avait un code qui permettait de voir les scènes de sexe, ça avait fait son petit scandale. Ils ont dû retirer le coffee mode. Donc
oui.
Parce qu'en fait, on
oui,
appelait ça le coffee mode parce que la nana
toujours,
demandait
là,
est-ce que
ouais.
tu veux prendre un dernier café à la,
oui, bah
à la
oui.
maison. Voilà.
Le classique. Donc oui, pour répondre à ta question, Xisso, il y en a énormément, bien plus que qu'on ne le pense. Même sur Cuphead, il y en a. Même si je ne sais pas si on peut parler de machinima.
Sur Cuphead, il y a de l'érotique.
Ah oui. C'est le moment où j'ai voulu vraiment tester les limites de cette règle 34 et j'ai tapé Cuphead et effectivement bah parce que t'as un boss à un moment un des boss qui est une sirène avec des coquillages qui lui protègent la poitrine et oui il y a eu énormément de détournements arrêtez avec les jeux de mots foireux mais je sais pas si on peut parler techniquement d'un machinima vu que c'est de l'animation 2D et il me semble que la 3D est importante pour parler de machinima. Parce que techniquement, on n'est pas dans le
Même
moteur
question,
de Cuphead,
ouais.
on est
si
dans une
moteur.
Reproduction.
Ouais, mais si c'est une reproduction, c'est plus un machinima. Non, effectivement,
le
machinima doit utiliser la. Oui, Cuphead, évidemment, c'était bien trouvé.
Joli. Désolé d'avoir partagé ça, mais en fait, depuis que je suis tombée là-dessus, j'ai besoin que d'autres personnes soient au courant, parce que moi, ça me permet de m'en protéger, en quelque sorte. Mais pour revenir donc, au côté safe for work du machinima, donc on avait parlé de l'épisode Make Love Not Warcraft de South Park, donc, où en fait. C'est des. Je ne sais plus lequel des enfants se fait bolosser par un troll sur World of Warcraft.
Ils sont plusieurs, en fait.
Ils sont plusieurs, ouais, face à un griffeur, donc quelqu'un qui passe son temps à les troller et décide, ouais, donc du coup, de
devenir d'excellents joueurs pour pouvoir battre ce mec qui, en fait, a tué leur personnage. Mm. Et pour ça va nécessiter qu'ils jouent quasiment jour et nuit, quoi. Ouais. Donc, toute la bande, ils vont devenir des espèces d'obèses complètement coincés sur leur PC à faire du level up à mort.
Très franchement, un des meilleurs épisodes de South Park. Ouais. Mais surtout que ce qui était intéressant,
c'est le fameux joueur.
Le fameux griffer, le troll, quoi. Vraiment, ouais. L'archétype du troll. Et c'était vraiment drôle, justement, de voir chacun des personnages emblématiques de South Park avec son avatar. Je sais plus lequel jouait une femme, si c'était Stan ou. Mais cet épisode était vraiment très drôle.
Et là, ils sont tous en train de se faire massacrer et ils comprennent pas ce qui leur arrive. Ouais.
Mais South Park ne sont pas les seuls à s'être essayés à l'exercice. Il y a aussi eu les experts à Manhattan, et notamment, alors malheureusement, j'ai pas d'extrait parce qu'ils doivent être un peu plus protecteurs de leurs droits d'auteur que ne le sont Trey Parker et Matt Stone. Mais il y a un épisode qui s'appelle Enquête virtuelle. Vous pouvez le regarder en replay sur TF1 si ça vous intéresse. Où donc les fameux experts vont chercher un criminel dans Second Life. Et moi, je t'avoue que j'ai un fétichisme très particulier pour les séries qui s'essayent un épisode un peu internet. Tu vois. Ouais. Enfin, ça a toujours été... Souvent, c'est un peu mal fait, c'est un côté un petit peu désuet, et au bout de 2 ans, l'épisode est complètement dépassé. Mais ça fait partie intégrante de l'histoire d'Internet.
Généralement, il est dépassé au moment de sa diffusion.
Celui-ci était dépassé au moment de sa
diffusion.
Déjà,
Second Life, ça nous fait faire un petit bout en arrière. Quoi. Mais après, il y a aussi la question, je dirais, des droits, parce que sur South Park, par exemple, ils avaient dû quand même obtenir
l'autorisation
de Blizzard, non, c'est ça
Oui, parce que c'est la question se pose aussi pour les photographes, par exemple, les personnes qui font des photographies dans des jeux vidéo. Ouais. Avec l'essor des photomodes, on a de plus en plus de personnes qui font des photos un peu arty, et du coup, le mettre dans leur portfolio en mettant tout droit réservé. Mais alors, je m'étais renseignée là-dessus auprès d'un avocat qui m'avait expliqué qu'en fait, non, malheureusement, toutes les photos en fait, appartiennent à l'éditeur. Même si vous avez fait de la post-prod dessus, à partir du moment où la photo a été faite dans un moteur de jeu, elle appartient à l'éditeur qui doit être systématiquement mentionné. Enfin, je veux dire, vous pouvez très bien dire j'ai pris cette photo dans tel jeu, mais et pour le coup, je trouve ça assez intéressant, enfin le fait de se dire que les personnes ne sont jamais réellement propriétaires de leur machine, de leur machinima.
Oui, c'est ça. On est, parce que le moteur de Quake et puis plus tard le moteur d'Half-Life, par exemple, au niveau des droits, je suis pas du tout au fait, juridiquement parlant, mais je crois que tu peux utiliser ce moteur tant que tu crées toi-même les objets qu'il y a à l'intérieur. C'est-à-dire que tu peux faire un film à partir du moteur Half-Life si tant est que tu n'as pas repris les immeubles, les objets développés par les développeurs
d'Half-Life. Par les développeurs, et que tu reprends et que tu fais les assets toi-même. Quoi.
C'est ça.
Pour le cas de Nights Island qu'on a vu en tout début d'émission, alors justement, j'avais discuté avec les réalisateurs qui m'avaient expliqué qu'eux voulaient faire quelque chose sur GTA à l'origine. Mmh. Mais Rockstar étant Rockstar, ils se sont dit que ça va être impossible à faire valider, ou surtout, ils n'étaient pas sûrs d'avoir la liberté, en tout cas, de pouvoir raconter ce qu'ils veulent. Parce que la plupart des... Là, en l'occurrence, le studio de DayZ, c'est Bohemia Interactive. Et eux ont accepté, mais voulaient quand même voir le film avant de pouvoir donner leur feu vert complet. Donc évidemment, quand ils ont montré leur film, qui est, certes montre le jeu sous un bon jour, il y a quand même des moments où les joueurs exploitent des glitches, enfin des bugs du jeu. Mmh. Et ça, au début, ils ont mis un stop en expliquant non, on n'a pas trop envie en fait que les gens voient que le jeu est buggé. Mmh. Et ils ont réussi donc à vraiment défendre leur bout de gras en expliquant mais c'est une démarche, c'est poétique dans la démarche de notre film, ça raconte si. Et ils ont réussi à l'obtenir. Mais voilà, donc du coup, c'est aussi pour ça que c'est compliqué d'avoir des machinima. Enfin, c'est des machinima qui sont commercialisées et diffusées en salle. Il faut que l'éditeur l'autorise. Et même là, ils ont tourné pendant une longue période sans savoir s'ils pourraient en faire quoi que ce soit. Quoi.
Ce qui est intriguant, c'est que les chemins ont du mal à se croiser entre le cinéma et donc le non pas le jeu vidéo globalement, mais entre le cinéma et les outils du jeu vidéo. Parce que ça devrait être les mêmes. Ouais. Et en fait, comment dire, dès la fin des années 80, j'ai le souvenir que Brian De Palma, par exemple, utilisait un logiciel d'architecte pour prévisualiser ses films.
Ah
parce
oui.
qu'il pouvait reconstruire son décor et ouais. donc choisir ses angles de caméra, etc. Il avait fait ça sur le film Casualties of War, qui s'appelait okay. Outrage en français. Et à l'époque, je m'étais dit, bah oui, moi, ça me semblait naturel que...
Non, mais c'est vrai que ça paraît logique, oui.
Oui, c'est ça.
Que... Bah, par exemple, Body Double, tu vois, je me dis, ça devait coûter une fortune de louer la fameuse maison de Body Double. Ouais. Je me dis, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir un logiciel de reproduction 3D pour y faire ce que tu veux et tourner tout ce que tu as pu.
Et donc, bah, du coup, dans les années 90, je m'attendais à ce que ça se développe beaucoup plus rapidement que ça. Et ça a mis du temps. La deuxième fois où j'ai eu... une certaine surprise et un gros choc, c'était, comme tu le sais, je me suis beaucoup intéressé au développement du Seigneur des Anneaux avant sa sortie. Et il s'était passé un truc absolument extraordinaire et presque imprévu, où en fait, les gens de Weta, donc la boîte d'effets spéciaux, avait permis à Peter Jackson de visualiser ce qui allait être la scène de la Moria avec le troll qui attaque toute la communauté quand ils sont coincés dans le tombeau de Balin. Mm. Je crois qu'on était en 99, donc,
ah oui, donc c'est, oui,
deux
c'est
ans
c'est...
avant la sortie du film. Et en fait, bah, en gros, Jackson, il avait... une fausse caméra, basiquement un truc comme si c'était un morceau de bois quoi, sur l'épaule, mais avec des capteurs. Et quand il avait un casque virtuel dans lequel il voyait ce que cette caméra verrait dans le tombeau de Balin, qui avait été recréé en 3D.
En 3D, ouais.
Je sais pas si jusque-là
si,
je suis clair.
Voilà. J'ai l'idée.
Et donc il est là.
Surtout l'image mentale de Peter Jackson avec une caméra en bois, si tu veux.
C'est ça. Oui. Et en fait, il y avait ce troll qui était très très
le troll
la scène.
Oui, pardon. J'avais encore celui de Sauce Par Contact.
Fait de façon très
sommaire.
Voilà, merci. Qui faisait toute la gestuelle qu'il ferait dans la scène. Et Jackson, du coup, s'amusait à choisir ses angles de caméra.
Ouais.
Genre il évite le coup du troll pour mieux le cadrer, etc. Bon bref. Et c'est à partir de ce qu'il a entre guillemets filmé,
ouais.
je dis bien entre guillemets, que toute la scène va se construire ensuite. Ça veut dire que quand ils sont sur le plateau des mois plus tard avec les comédiens, en fait les angles de caméra qui sont choisis sont choisis en fonction de ce que Jackson avait prévisualisé.
D'accord. Mais du coup, dans un univers virtuel qui avait été conçu pour l'occasion ou qui était déjà
oui,
existant
non, d'accord. Ils avaient créé donc, le tombeau de Balin en 3D. Lui,
ouais,
s'était baladé. Voilà. Et donc là, ce plan, par exemple, où le troll tape voilà, et ça bouge un peu et on a la caméra qui bascule légèrement sur le côté, ça, ces plans-là ont été tournés des mois avant le tournage. Et donc, cette moi, ça m'avait fait exploser le cerveau parce que je me dis, c'est bon, on arrive à un point où la chronologie du tournage d'un film va être complètement bousculée puisqu'on est en train de filmer des choses avant de les filmer.
Avant même de les filmer, ouais.
Il y avait tout se mélanger. Mais je m'attendais à ce que ça aille beaucoup plus vite dans ce sens-là. Et à part quelques gros réalisateurs comme ça, les Jackson, les Zemeckis, les Spielberg et autres,
ouais.
presque personne n'a utilisé ces outils qui sont
ouais.
extraordinaires pour justement... bah, préparer des tournages extrêmement, effroyablement complexes. On a eu un autre croisement vidéogame cinéma à la sortie du film Monster House. Alors, je crois que je t'avais, Antoine, envoyé un lien du making-of de Monster House. Où, voilà. Et donc là, on va voir, les comédiens ont été capturés, donc on a une reproduction très sommaire à l'image. Et en fait, ils sont en train de choisir les angles, donc on, comme si c'était une vraie caméra professionnelle, avec voilà. Sauf que eux, ils travaillent basiquement sur un videogame. Là, ils sont en train de se rapprocher des persos. Et en fait, ça, c'est parce que le gars qui fait l'opérateur, c'est un
ah oui, voilà. qui gère juste la caméra. Ouais,
du et coup. Du coup, ils avaient aussi développé cette espèce de manette de jeu qui leur permettait d'avoir d'autres types de mouvements. Donc, selon les besoins de la mise en scène, soit c'était une caméra brutale, donc avec la manette, soit c'était une caméra précise. Voilà. Et donc, bah, du coup, voilà, tout Monster House, c'est un film en performance capture. La performance capture, pour le résumer, c'est de véritables comédiens qui jouent leur personnage, ouais, et qui soit dont la performance est capturée pour être ensuite transcrite en CGI, en 3D. En gros, c'est le principe que Cameron va utiliser sur Avatar par la suite. Donc là, on est en 2007 et on commence, oui, à se dire, mais enfin, non, on s'attendrait à ce que ce soit plus,
ouais, plus utilisé,
systématique, en fait. Ouais.
Bah, si ça permet de, comment dire, d'optimiser les coûts et les temps de tournage, enfin, oui, je vois tout à fait l'utilité que ça pourrait avoir, quoi. Mais je crois que c'est... pour revenir juste à la télévision, il y a un autre cas que j'aurais aimé citer parce que, pour le coup, ça m'a vraiment fait trop marrer. C'est l'émission Time Commanders sur la très sérieuse BBC, donc diffusée à partir de 2003, où en fait, on a des reconstitutions de batailles historiques, donc on doit avoir des images. Ouais, ben voilà, magnifique images, donc qui sont commentées par des historiens. Et bon, ça me fait beaucoup rire. En gros, tout a été tourné sur le jeu Rome Total War, et donc ils vont refaire, ouais, des reconstitutions les plus réalistes possibles, on va dire. Mais c'est marrant parce que ça me fait aussi penser à toutes ces émissions de type L'Ultime Guerrier. Je sais pas si tu as déjà eu le plaisir de voir L'Ultime Guerrier. L'Ultime Guerrier, pour le coup, alors c'est des simulations plutôt avec des images de synthèse, pas réalisées à partir de jeux vidéo existants. Mais c'est, par exemple, on va se poser la question, qui est le meilleur entre un ninja et un agent du KGB? Enfin, un truc qui a aucun sens. Et du coup, ils font une reconstitution en images de synthèse d'un combat, ouais, de 1000 agents du KGB versus 1000 ninjas, et t'as des faux historiens, là, pour le coup, c'est vraiment n'importe quoi, qui vont dire, oui, évidemment, à l'époque, c'est le ninja qui aurait gagné, mais bref, voilà. Tout ça pour dire qu'il y a eu une période, vraiment, où la télé était extrêmement audacieuse en termes de... Je trouve que la télévision française, particulièrement, faisait pas mal de formats hybrides, jeux vidéo, enfin... Jeux vidéo.
Ah bah, c'est surtout la télévision asiatique. Hein. Tu parlais tout à l'heure de The French Democracy, donc qui reprenait le moteur de The Movies pour faire un court métrage. Ce concept créatif, il a complètement été adopté. Alors je crois que c'est en Indonésie qui font ça régulièrement, je crois, ou c'est la Corée du Sud, je ne sais plus. Mais de parler d'événements géostratégiques et politiques qui se passent notamment en Occident, en recréant les scènes dans un video game, en mode humoristique, parce que forcément, ils avaient...
Il faut absolument que je regarde.
on a parfois, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, des choses tellement absurdes dans notre vie politique que ça les fait marrer. Et du coup, ils transforment ça en sketch avec...
À partir de World of Warcraft,
en gros, oui, c'est ça, quoi.
Donc, t'as un George Bush
vaguement reconstitué avec un chapeau de cow-boy en train de faire n'importe quoi. Mais juste pour parler d'un truc. Pour illustrer un événement qui s'est vraiment produit.
C'est peut-être la meilleure manière de montrer l'absurdité du monde politique moderne. Mais quelqu'un dit... parce qu'il y a des exemples sérieux aussi. Récemment, il y avait un documentaire sur le Proche-Orient sur Arte, dans lequel ils ont mis des scènes d'Assassin's Creed Origins et un autre, c'est la reconstruction de Notre-Dame avec des extraits d'Unity.
D'accord.
Bah oui, évidemment, ouais, ça m'étonne pas du tout, surtout que Ubisoft, pour le coup, savent faire des environnements très, très réalistes. Ils ont carrément un département avec des historiens qui vont vraiment couper les cheveux en quatre pour savoir est-ce que ce genre de fenêtre aurait été orientée comme ça au 15e siècle. Donc ça m'étonne pas du tout. Et le documentaire en question s'appelle Les mille et une légendes de l'Orient. Ok, je regarderai ça.
Et donc, sur le plan créatif, oui. Est-ce qu'on a eu des choses, vraiment inédites, qui ne nous aient pas été... parce que finalement...
Oui, il y a des choses qu'on ait loupé, des trucs hyper
importants. Voilà, l'essentiel des machines IMA se contente de reprendre les codes du cinéma.
Du cinéma,
voilà. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tu as parlé tout à l'heure de ce que Chris Marker a cherché à faire. Mais il n'y a pas tellement d'expérimentation. Mais parfois, l'expérimentation, elle arrive presque par hasard, on va dire, de façon un peu inattendue. Moi, j'ai découvert récemment, parce que j'étais complètement passé à côté, grâce à la chaîne de Bolshegeek, c'est lui qui m'a fait découvrir ça.
Oui, très bonne chaîne.
Le GTA RPZ, donc en fait...
C'est l'incarnation du machinima aujourd'hui, même si c'est vrai qu'on dénomme pas tant Parce qu'il y a des personnes qui font des films à propos des extraits Twitch. Bah oui, je te laisse définir peut-être, vu que c'est ta nouvelle obsession.
Bah tiens, on a quelques extraits là. De, bon, c'est un montage en fait de différentes conneries qui se sont produites sur ce GTRPZ. Sans le son, on comprend pas très bien ce qui se passe.
Ah bah oui, on a le fameux Donatien.
Je sais pas, moi j'ai mis le Colisée, je pensais.
Hâte de voir notre.
D'Antoine Pourquoi Daniel, qui était mon perso préféré de Londres.
Voilà, Antoine Daniel vient de se faire bousculer par les frères Croûte. C'était sa première rencontre avec les Croûte. Là, on a une prise d'otage voilà, très sérieuse, et puis on ne sait pas trop pourquoi il va passer un pick-up avec un cochon à son bord, etc. Bon. Donc, qu'est-ce que c'est que le GTRPZ? En fait, c'est un truc qui s'appelle le The Event.
Oui, oui. Annuel de stream.
Voilà, événement annuel qui vise à regrouper des sommes généralement pour Amnesty International ou
une asso,
voilà. Et s'ils atteignent une certaine somme, en fait, ils s'engagent à.
Ils ont tous des objectifs, des donation goals, quoi.
Les différents streamers s'engagent à se retrouver sur le même serveur, en l'occurrence là, un serveur GTA. Pour vivre une semaine de RP, quoi, de role-playing. Mm. Et du coup, tout l'intérêt du truc, c'est que chacun va suivre son streamer favori et vivre ses aventures.
Oui, donc, voilà, c'est comme une sitcom dont on pourrait en fait, suivre tous les personnages en, fait, en choisissant le point de vue qu'on veut au moment qu'on veut. Quoi.
En fait, voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut suivre le feuilleton d'un personnage, donc du héros qu'on s'est choisi, du streamer. Mais comme ils sont tous sur le même serveur et qu'ils se croisent et qu'ils interagissent et que du coup, c'est dans leur interaction que le récit prend forme, on peut aussi aller voir qu'est-ce qui se passe chez l'autre. Donc si quelqu'un était en train de suivre, par exemple, ces personnages de Donatien avec son, qu'on a vu tout à l'heure avec son beau chapeau, les deux personnages sont en train de courir. Ce sont les fameux cousins Croûte qui sont devenus progressivement les stars du truc en fait.
Ah ben il y a quelqu'un qui nous dit que allez voir la chaîne YouTube Dipsanox qui a fait 7 à 8 machinima qui retrace la totalité de RPZ. Et ça peut être pas mal ouais parce que donc tu as des personnes après qui vont récupérer les images de ces streams pour les agencer en faire un film quoi.
Exactement. Ouais,
et donc 100% impro oui tout à fait.
La nouveauté par rapport à ce phénomène, la nouveauté culturelle, c'est cette idée de feuilleton interactif, c'est-à-dire le fait que tu puisses choisir le streamer que tu vas suivre et donc de comprendre de son point de vue ce que lui a vécu. Donc là, Donatien, il vit ses aventures, etc. Et puis de temps en temps, il a des interactions généralement catastrophiques avec ses fameux cousins Croûte, Antoine et Daniel Croûte, qu'il a embauché dans sa propriété et qui passe leur temps à faire des gaffes. Quoi. Ouais. Mais quand tu suis Donatien, tout ce que tu vois, c'est les conneries que les Croûte ont faites après coup.
Après coup,
et tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé?
Pourquoi
il y a un tracteur là? Pourquoi le camion est dans la rivière, etc. Mais du coup, tu peux aller aussi sur la chaîne d'une des deux streameuses qui faisait les cousins Croûte et voir ce qui s'est passé. la raison pour laquelle il était venu en tracteur, c'est parce qu'il s'était passé ceci et cela. Et du coup, cette façon de pouvoir commuter en fait,
d'un point de vue à un autre,
aucun feuilleton, bien sûr, ne propose ça. C'est comme si tu regardais Game of Thrones et que tout se passait en temps réel.
Ou Arya, quoi. Oui, moi, c'est un truc qui m'avait complètement fasciné. Et un peu intimidée, je dois l'avouer, quand j'avais commencé à faire du RP pour un... Mais alors, c'était dans le cadre d'un article. Mmh. C'était pas pour me lancer dans une carrière de role-playeuse, je n'ai pas ce talent. Mais il y a un côté un peu intimidant, parce que t'arrives sur un serveur... Donc, alors, moi, pour le coup, c'était les serveurs flashback. Bah, j'en ai déjà parlé, désolé, je radote par rapport à ceux qui ont vu l'épisode sur GTA, mais il y avait vraiment ce truc où on est sur un serveur où on n'est que 200, chacun a des centaines d'heures à son actif, fait du role-play depuis longtemps, et moi, je débarquais vraiment, en fait, avec la crainte permanente de sortir de mon personnage, parce que je savais que tu pouvais être banni si ça arrivait. Et ça peut passer par la plupart du temps, donc quand tu fais des gestes, tu t'actionnes des emotes, faut le faire manuellement.
Oui.
Mais sauf que moi, au début, j'arrivais pas à m'asseoir autrement qu'en tailleur par terre, donc je passais juste pour une grosse hippie. Donc mon perso est devenu fatalement. Je m'appelais Apollonia, c'était Apollonia la hippie, quoi. Ouais. Juste parce que j'arrivais pas à trouver la commande pour m'asseoir sur un canapé.
C'est ça.
Mais il y a le côté impro très chouette.
Ouais. Les Croûte, le seul truc qu'ils avaient trouvé, c'était. la commande qui permet de tomber au sol, en fait. Donc, du coup, leur personnage était hyper émotif parce que dès qu'il se passait un truc, ils tombaient
dans les pommes.
et ils ont fini par en faire un gag récurrent. Il y a d'ailleurs un gag récurrent dans ce qui s'est passé, qui est devenu au fur et à mesure un truc super émouvant, c'est que dans l'interaction entre les croûtes et Antoine Daniel, qui jouait Donatien, c'est qu'à chaque fois qu'ils finissaient leur conversation téléphonique, les croûtes lui disaient bisous. Et lui, il disait non, pas bisous, parce que voilà, c'est vraiment deux ados un peu attardés, quoi. Et pendant toute la semaine, on va dire, c'est à chaque coup de fil, c'était immanquable, ça se terminait par bisous et l'autre non pas bisous. Et le tout dernier jour, au moment où le serveur a dû fermer, chaque personnage finit son arc, on va dire. Quoi.
Ouais.
Et donc les deux croûtes sont sur la plage, en train de revenir sur la semaine. Et ils envoient un texto à Donatien avec marqué bisous et il leur répond bisous. Et là, tout d'un coup, ça te voilà. Et je pense que c'est un truc qui n'aurait pas pu se faire autrement que dans un pur théâtre d'improvisation comme c'était le cas là.
Bah oui, il y a une vraie sincérité, tu as zéro calcul.
C'est ça.
C'est le
Mais
truc selon qui
vient que tu étais sur une chaîne ou sur l'autre, tu le vivais sensiblement différemment. Si tu étais sur la chaîne de Donatien, tu voyais le texto bisou et tu te disais mais qu'est-ce qu'il va répondre.
Ouais.
Alors que du côté des croûtes, c'était oh, il a répondu bisou.
Mais quand est-ce que tu t'y mets au roleplay sur GTA du coup?
Jamais.
Déjà, rien qu'en tant que spectateur, ça peut être extrêmement chronophage. Enfin, je me souviens avoir pas perdu, mais en tout cas passé beaucoup de temps à en regarder. Mmh. Encore aujourd'hui sur Twitch, ça reste une catégorie qui cartonne. GTA V, c'est quand même sorti en 2013, et ce qui fait le sel de GTA encore aujourd'hui, c'est le mode online et notamment tous les serveurs RP. Et ce qui est intéressant, c'est que Rockstar a fait l'acquisition en fait de CXF.RE, donc c'est les personnes qui sont à l'origine des modes 5M. Donc, qui permettent en fait les serveurs de roleplay. Donc, ce sera pleinement intégré. Parce que pendant longtemps, on se disait, mais tiens, Rockstar ne réagit pas du tout par rapport à cette utilisation qui est faite de leur jeu. Et en même temps, ils avaient plutôt intérêt à rien dire, parce que ça fait que le jeu continue à se vendre, continue à être un des jeux les plus regardés sur Twitch. Donc, je suis très curieuse de voir ce que ça va devenir, en fait, maintenant que, du coup, ça fait partie intégrante de l'aspect en ligne du jeu. Quoi. Est-ce que ça va se développer? Est-ce qu'il y aura des outils à la création? Est-ce qu'on va perdre du côté un peu
déjà,
authentique qu'il y avait
j'espère que sur le prochain GTA, il y aura le Director Mode qui existe actuellement sur GTA V. Alors là, ce dont on parlait par rapport à ces streams, les vidéos qu'on peut voir sur de ce feuilleton du RPZ...
Qui a duré deux semaines, hein, je crois.
Oui, c'est ça. Mm. C'est vraiment ce que le joueur voyait. C'est-à-dire, en gros, c'était... comme c'est la troisième personne, tu étais souvent derrière le personnage. Il n'y a pas d'effort de mise en scène, on va dire, dans ce feuilleton. Mais comme il existe sur GTA un mode director qui te permet, à partir de ta partie enregistrée, de faire exactement ce qu'on faisait à l'époque sur Driver, c'est-à-dire choisir tes angles de caméra, etc., on peut aussi imaginer que des gens, après avoir... vécu leur feuilleton, c'est-à-dire avoir fait leur RP, reviennent et le montent et choisissent de le monter. Et là, pour le coup, je pense que avec la qualité grandissante du moteur du jeu, on obtiendra quelque chose de vraiment, vraiment sensationnel. Quoi. Ça marche déjà très bien avec une caméra, je dirais, paresseuse. Oui. Le simple fait de suivre le personnage... En réalité, les situations sont drôles et tu t'attaches au personnage et au dialogue et tout ça.
Oui.
Si en plus de ça, tu as la mise en scène
qui
vient se rajouter, ça va donner vraiment des trucs formidables.
Parce qu'il y a déjà beaucoup de clips de, souvent, il faut l'avouer, mauvais rap, qui sont faits à partir d'images tournées sur GTA. Et là, il y a un documentaire qui va sortir en décembre prochain qui s'appelle Grand Theft Hamlet, donc un nom très inspiré. Alors, je ne l'ai pas encore vu, mais c'est l'histoire d'acteurs d'une troupe de théâtre dans la vraie vie, enfin d'une troupe de comédiens, qui pendant la période de confinement, se rendre compte qu'ils peuvent plus se produire sur scène et ça leur manque et en fait vont aller faire du RP sur GTA pour essayer de reconstituer leur troupe quoi. Mais ce genre d'initiative, on en voit pas mal des initiatives comme ça, souvent autour de GTA. Il y a aussi eu des petits films documentaires par exemple sur la vie secrète des PNJ ou des choses comme ça, mais j'ai l'impression que GTA, Red Dead, ça reste des grosses sources. C'est un peu les nouveaux Quake et Doom pour le machinima aujourd'hui quoi.
Bien.
Ah oui, pardon, le chat, tac.
Est-ce qu'on a des...
Oui, n'hésitez pas, on va se quitter là, mais si vous avez des petites questions, n'hésitez pas. Oui, je pense qu'on a fait on a réussi à faire une histoire chronologique du machinima.
C'est ça.
Sans trop de digressions, ça va.
On n'a pas eu beaucoup de questions sur le chat.
Non, mais pas mal de recommandations de films, en tout cas.
Ou des anecdotes. Antoine Croûte transformé en station-service. C'était un peu le moment David Bowie en cafetière dans Twin Peaks. Bon, hommage à David Lynch, qui vient de nous quitter récemment.
Les vidéos sur l'or de certains jeux, genre Elden Ring. Oui, alors pour le coup, moi j'adorerais voir un machinima extrêmement bien fait sur Elden Ring. Vraiment, enfin, j'adorerais. Bah, surtout qu'en plus, tu peux faire absolument ce que tu veux de ton personnage, tu peux quand même le customiser. Si un apprenti réalisateur veut faire l'histoire de Let Me Solo Her, le mec qui proposait à tout le monde de battre Malenia en multijoueur, je pense que ça pourrait faire un très grand biopic. Voilà, c'était ma petite suggestion. Bah écoutez, pas de questions, mais des remarques très sympas, c'était très intéressant, vous êtes très cool. Cette émission sera disponible en replay pendant 2 semaines sur Twitch, mais aussi sur Arrêt sur Image, qui est en accès libre jusqu'à la fin du mois, si je ne m'abuse, si vous voulez profiter d'articles de qualité. N'hésitez pas. Et nous, on se retrouve le mois prochain, assez vite, début février, pour une émission sur... On peut en parler pour une fois n'est pas coutume.
Ben oui, on va parler de l'origine des Anonymous.
Voilà, tout à fait.
De ce groupe de hackers. D'où viennent-ils? Quels sont leurs réseaux? et quel est l'événement en fait qui a permis l'émergence de ce concept? Voilà.
Et tout à fait, les vidéos sont en accès libre. Et bah de rien, Zanassi, ça nous fait plaisir aussi. On se voit le mois prochain. Donc.
Merci à tous.